Bien, ce soir, nous allons poursuivre notre étude de l'histoire de l'Église, l'Église donc au VIe siècle, et nous allons voir l'important chapitre de l'évangélisation de l'Europe, ou plutôt la réévangélisation de l'Europe. Réévangélisation parce que les invasions barbares avaient quelque peu mis à mal, si j'ose dire, l'influence du christianisme en Europe, et l'arrivée de hordes de barbares venant de l'Est avait fait en sorte qu'une foule de païens s'était installée dans les limites de l'Empire romain, si bien qu'une réévangélisation de l'Europe s'imposait à cette époque-là, époque qui, ainsi que nous l'avons vu, était aussi une époque de désintégration sur le plan culturel, et économique, etc. Il ne restait finalement plus que comme structure organisée que la structure de l'Église. Et donc l'Église, au VIe siècle, sous l'impulsion de Grégoire le Grand, ce pape parmi les plus grands qui fut, n'est-ce pas, entreprend et éprouve le besoin de réévangéliser ces pays qui sont en train de revenir, de rebasculer dans le paganisme. Et le succès de l'évangélisation de l'Europe à cette période-là sera tel que le mouvement s'amplifiera et dépassera le cadre des limites de l'ancienne chrétienté, si j'ose dire, si bien qu'un millénaire après Paul, toute l'Europe sera évangélisée. Et au XIe siècle, on peut dire que l'évangélisation de l'Europe prendra fin avec la conversion des rois de Scandinavie, la Scandinavie étant les derniers pays d'Europe à se tourner vers le christianisme, et en général, on considère que la conversion de la Scandinavie, des rois de Scandinavie, marque la fin de l'évangélisation de l'Europe. Donc, un mouvement qui redémarre au VIe siècle et qui s'achèvera, en fin de compte, au XIe. Revenons un peu en arrière pour parler de l'évangélisation de l'Europe dans ses débuts. Au moment de l'âge apostolique, l'Europe avait commencé à être évangélisée par l'apôtre Paul, la Grèce notamment. Puis ensuite, Paul était venu jusqu'à Rome et vraisemblablement, il a terminé son ministère après avoir évangélisé l'Espagne. Du moins, c'est l'intention qui était la sienne dans l'Épître aux Romains, et rien n'empêche de penser qu'il a mené à bien le projet qui était le sien alors. Au IIe siècle, nous savons que l'Église de Gaule, des Gaules, était déjà très structurée, très importante, et je vous rappelle ce que nous avons vu notamment au moment des grandes persécutions du IIe siècle à Lyon, oui, avec Irénée, etc., puis les martyrs de Lyon de l'année 177 en particulier. Puis de là, les missionnaires chrétiens étaient allés évangéliser les Goths au-delà du Rhin et les Slaves. Maintenant, nous allons voir comment s'était produit cette évangélisation. Dans un autre domaine, un autre mouvement d'évangélisation s'était plutôt déplacé vers l'ouest, et les Celtes avaient été évangélisés. Les Celtes qui habitaient justement dans notre région d'abord, et puis ensuite le sud de l'Angleterre et l'Irlande. Les Celtes, en effet, à cette époque-là, avaient connu des mouvements de population très importants, puisque c'était l'époque de l'invasion des Teutons, si bien qu'il n'était plus resté de Celtes après cette période, c'est-à-dire au VIe siècle, à l'époque qui nous intéresse, qu'en Irlande, en Écosse et dans les îles britanniques. De là, le mouvement d'évangélisation s'était continué. Il avait atteint les Huns, un certain nombre d'autres Slaves encore, et les Magyars, qui étaient les ancêtres des Hongrois. Ce qui était, par contre, un frein sérieux à l'évangélisation, plus le temps passait, c'était que la moralité des chrétiens était inversement proportionnelle au nombre de gens qui embrassaient la foi chrétienne. Au début, il y avait un haut degré spirituel et moral chez les chrétiens, mais au fur et à mesure que des masses et des masses de gens entraient dans l'Église, notamment après la conversion de Constantin, eh bien, la moralité baissait. Et ceci était un frein sérieux à la crédibilité de la foi chrétienne et par conséquent un frein sérieux aussi à l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle, à peu près à la fin du IVe siècle, l'évangélisation en Europe, après avoir eu des progrès importants, stagne. L'ego, alors, vont connaître une évangélisation assez particulière. D'abord, les premiers go à se convertir au christianisme le seront sous l'influence d'esclaves chrétiens. Ils ont fait des esclaves. Ces esclaves, étant animés de l'esprit d'évangile, bien loin d'en vouloir à leur maître, vont les évangéliser, leur parler du Seigneur. Puis par la suite, le véritable apôtre d'ego sera un certain Ulfas, qui lui aussi, d'ailleurs, est allé chez l'ego comme esclave. Il était originaire d'Asie mineure, il a été emmené comme esclave par l'ego, il était originaire de la Cappadoce, et il s'est retrouvé à la cour d'Alaric, le roi d'ego. Vraiment, il y avait un problème, c'est que cet Ulfas était arien. Et lorsqu'Alaric, le roi d'ego, s'est converti, vous savez ce qui se passait en général, quand on avait touché le chef d'une tribu, d'une population, d'un royaume, etc., et que ce dernier se convertissait, eh bien automatiquement, c'était toute la tribu qui se convertissait, tout le peuple. C'était un petit peu le principe qui sera celui de la chrétienté médiévale et après la réforme, cuius regio, cuius religio, c'est-à-dire la religion du prince doit être aussi la religion du peuple. C'est pourquoi les méthodes des missionnaires en Europe à cette époque-là, c'était justement d'évangéliser essentiellement les élites, les rois, les chefs, les responsables des tribus, etc. Et à partir du moment où ces gens-là s'étaient convertis, eh bien, toute la tribu, tout le royaume se convertissait comme un seul homme. Plus ou moins sincèrement, bien entendu, comme on peut l'imaginer. Mais enfin, ils se convertissaient. Officiellement, ils se convertissaient. Et c'était des baptêmes de masse, tels que ceux qui ont eu lieu lorsque les Francs, vous savez, se sont convertis avec Clovis. Tout juste s'il ne fallait pas baptiser tout ce monde-là ou chez d'autres, et moi, il y en avait. Bon. Alors, certain que le degré de consécration et de moralité, par conséquent, de ces gens-là, pouvait laisser assez souvent à désirer. Et les Goths n'ont pas fait exception à la règle. Toujours est-il que Ulfas, en tout cas, est celui qui a traduit la Bible en Goth, et pour ce faire, il a inventé un alphabet, l'alphabet Goth, n'est-ce pas, dont le but premier était de traduire la Bible. C'est toujours la même démarche, c'est ce qui s'était passé en Arménie, c'est ce qui s'était passé dans d'autres endroits. On avait inventé des alphabets pour pouvoir ainsi copier la Bible. Ainsi, les Goths ont été ariens pendant 200 ans. Et cela a posé de gros problèmes parce que lorsque les invasions barbares ont eu lieu, il y avait d'une part des Goths qui étaient païens et qui ont amené un regain du paganisme au sein de l'Europe occidentale. Et puis alors, il y avait aussi les Goths qui étaient ariens, ce qui fait que le problème arien que l'on croyait éliminé a ressurgi sous l'influence des Goths. Et il a fallu 200 ans de lutte acharnée contre l'hérésie arienne, donc jusqu'au 8e siècle, pour que, en fin de compte, les Goths retournent à l'orthodoxie. Mais à nouveau, l'Église a été menacée par cette hérésie arienne qui ressurgit constamment dans l'Église, l'hérésie qui, souvenez-vous, met en cause la divinité de Jésus, et ce faisant, qu'on retrouve aujourd'hui sous des formes plus modernes, sous la forme un peu grossière des témoins de Jéhovah, et sous la forme plus subtile aussi de certaines prises de position dans les églises officielles de la part d'un certain nombre de théologiens qui nient la divinité de Jésus. On trouve ça même dans l'Église catholique. Certains théologiens allemands qui ont été, il y a quelques années de cela, sanctionnés, après que cela d'ailleurs ait fait un certain bruit. Donc, au moment où Grégoire le Grand arrive sur le trône, pontifical, la situation n'est guère brillante. Ou bien alors, il reste un christianisme quelque peu affadi, sur la défensive partout dans les pays d'Europe, à côté duquel on trouve un paganisme agressif, et puis les hérésies, dont la principale, justement, est l'hérésie arienne professée par les Goths. Et c'est dans ce contexte que, soudain, va éclater un véritable réveil. Un véritable réveil qui va relancer l'évangélisation de l'Europe dans les différentes lignes de force que nous avons vues tout à l'heure. Et cette évangélisation, ce réveil, naît dans l'Église celte. C'est au milieu des Celtes que va avoir lieu ce réveil. Le principal artisan de ce réveil est Patrick, qui a été canonisé, bien entendu, comme il se doit, qui était un moine irlandais. Et ce Patrick a fait une véritable rencontre avec Dieu, s'est vraiment converti au Seigneur, et non seulement cela, mais a fait aussi des expériences charismatiques profondes. C'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, manifestant les dons du Saint-Esprit, guérison, miracle, prophétie, révélation, etc. Et c'est ainsi que, un jour qu'il était en prière, Dieu lui a donné une vision, une révélation, lui disant qu'il l'appelait à évangéliser l'Écosse. Et Patrick a donc rassemblé autour de lui un certain nombre de disciples, et ils se sont mis en route vers l'Écosse, évidemment. L'Écosse était un royaume qui était entièrement païen à cette époque-là, où le christianisme avait été totalement éliminé, et l'aventure était quelque peu périlleuse. Ce n'est pas sans appréhension que les moines se sont embarqués justement d'Irlande pour se rendre à l'appel du Seigneur, appel que Patrick décrit d'ailleurs dans des termes un peu semblables à ce qui s'était passé, vous savez, lorsque Paul avait quitté l'Asie mineure pour se rendre en Grèce après avoir vu la vision du Macédonien. C'était une vision du même type que Patrick avait reçue. Patrick est donc arrivé en Écosse et il s'est mis immédiatement à prêcher l'Évangile. Les premiers temps n'ont pas été marqués par un succès formidable, loin s'en faut. Les Écossais étaient extrêmement méfiants. Alors Patrick a changé de méthode et, réalisant qu'il y avait dans ce pays vraiment, comment dirais-je, des conditions tout à fait déplorables sur tous les plans, c'était vraiment la barbarie totale, sur le plan éducation, sur le plan hygiène, sur le plan des mœurs, sur le plan de même de économique, n'est-ce pas ? Eh bien, Patrick a pensé que le seul moyen de prêcher vraiment Jésus-Christ dans ce milieu-là, c'était de le faire à partir de la jeunesse. Et c'est alors qu'il a ouvert, il a créé des écoles. Des écoles où les jeunes Écossais pouvaient venir se former et où il leur apprenait, bien sûr, à lire, à écrire, à compter, etc. Il leur apprenait à cultiver les terres, ce qu'ils ne savaient pas faire, de manière rationnelle du moins. Il leur apprenait des notions d'hygiène qui leur manquaient, et bien sûr, il leur parlait de l'Évangile, il leur parlait de Jésus-Christ. Si bien que les écoles fondées par Patrick étaient à la fois des centres d'éducation, certes, mais aussi des centres de dévotion. Et nombreux sont les jeunes gens qui, dans ces écoles, ont été touchés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, se sont convertis et sont réellement devenus des gens ensuite qui ont fait aussi des expériences charismatiques. Patrick et ses disciples, disons, vivaient dans une sorte de communauté. Et c'est tout à fait intéressant parce que les relations qu'avait l'Église irlandaise à ce moment-là avec Rome étaient des plus lâches. D'abord, il y avait la distance géographique qui jouait. Puis alors, il y avait aussi le fait que les expériences qu'ils avaient faites directement avec Dieu faisaient qu'ils n'éprouvaient pas tellement le besoin de se mettre en contact avec Rome. Ils étaient beaucoup plus occupés à évangéliser. Et c'est ainsi qu'il y a un certain nombre de traits caractéristiques du monachisme irlandais qui étaient tout à fait originaux, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Souvenez-vous que c'est aussi l'époque où fleurissait le monachisme classique, avec Benoît notamment. Mais le monachisme celte était foncièrement différent du monachisme de Benoît. Le monachisme de Benoît était plus un monachisme, disons, mystique, qui était plutôt replié sur lui-même, tandis que le monachisme irlandais était un monachisme rayonnant, un monachisme qui était surtout animé par le souci d'évangéliser. Et c'est pas du tout que les monastères n'étaient pas du tout des lieux fermés, comme c'était le cas dans la règle de Benoît, mais c'est au contraire des lieux de rayonnement de la foi intensive. C'est ainsi, par exemple, que les communautés créées par Patrick ignoraient, par exemple, le célibat des prêtres. C'est tout à fait intéressant. On ignorait également la confession auriculaire, l'extrême onction et le culte marial. On y baptisait par immersion les croyants sur profession de leur foi, les adultes. D'ailleurs, petit détail anecdotique en passant, au lieu de les plonger une fois dans l'eau comme nous faisons, Patrick les plongeait trois fois dans l'eau, une au nom du Père, une au nom du Fils et une au nom du Saint-Esprit, comme ça au moins ils étaient bien baptisés. Bon, et c'est ainsi que l'œuvre va pouvoir commencer à se développer en Écosse. Dans ce même temps, Patrick va être secondé par un homme aussi de grande envergure qui va apparaître à cette période-là, qui se nomme Colomba. Colomba est aussi un Irlandais, comme les Patrick. C'est d'ailleurs un homme qui est d'ascendance royale. Il appartient à la famille royale d'Irlande. Et c'est un homme qui, aussi, sous l'influence de ce réveil qui continue à se manifester en Irlande, dont Patrick avait été le bénéficiaire, eh bien, se convertit, fait aussi une expérience profonde avec Dieu et décide de rejoindre Patrick en Écosse. Il débarque donc dans ce pays en 563 et immédiatement il va s'installer dans une île qui s'appelle l'île de Iona où il va fonder un monastère. Mais un monastère dans le style de Patrick, non pas dans le style de Benoît, c'est-à-dire monastère, centre de rayonnement. Et le but essentiel de ce monastère, c'est qu'il soit un centre de vie spirituelle, certainement, mais qu'il soit aussi un lieu de formation pour les missionnaires qui vont être ensuite envoyés sillonner l'Écosse, puis au-delà de l'Écosse. Et il y a là, donc, de nombreux jeunes gens qui viennent se former pour le service de Dieu dans cette petite île. D'ailleurs, Colomba rassemble une bibliothèque importante, met à disposition des étudiants. Et lorsque ces gens-là, qui allient à la fois l'étude de la Bible, la prière, et puis le travail manuel, le travail de la terre, parce que le monastère vit sur lui-même, il vit du travail de la terre, il vit en autarcie, et il est important que les moines, les missionnaires ensuite qui vont être envoyés évangéliser soient des hommes de prière, des hommes de foi, des hommes instruits de la parole de Dieu, mais que ce soient aussi des hommes qui enseignent ensuite aux populations qu'ils vont avoir évangélisées comment se subvenir aussi à leurs propres besoins, parce que la pénurie de nourriture qui sévit en Écosse est due essentiellement au fait que les méthodes de culture sont tout à fait archaïques et que Colomba et Patrick se sont rendus compte qu'avec des méthodes un petit peu plus rationnelles, eh bien, il serait possible d'avoir des rendements plus élevés, donc de réduire le problème de la famille. Et ce sont des gens qui prennent en compte la dimension de l'homme, plutôt l'homme dans toutes ses dimensions, dans sa dimension spirituelle qui est la chose essentielle, sa dimension morale et aussi les besoins physiques qui sont les siens. Et c'est pourquoi les missionnaires doivent être aussi des gens qui sont capables d'enseigner aux populations qui vont avoir évangélisé, l'art de cultiver la terre. Et ainsi, pendant des années et des années, le monastère de Iona va être le grand centre de rayonnement de l'évangile de l'église celte. Alors là, il y a tout un ensemble, toute une véritable légende qui naît autour de ce monastère. Légende, ça ne va pas dans le sens mythique du terme, mais je veux dire, quelque chose qui a pris une importance très grande dans la mémoire des gens. Et Colomba va devoir se heurter aux religions traditionnelles de l'Écosse, en particulier le druidisme. Le druidisme qui n'a pas disparu à cette époque-là de ces régions. Or, les druides sont des gens qui ont des pouvoirs occultes certains. Et il est certain que l'évangile n'aurait pas pu percer dans ce pays si les missionnaires chrétiens, à cette époque-là, n'avaient eu aussi la puissance du Saint-Esprit pour leur venir en aide. Et les sources de cette époque-là évoquent un certain nombre de défis qui ont été jetés par les missionnaires, par les druides plutôt aux missionnaires. Et les missionnaires ont confondu et les druides et les populations qui sont subjuguées par les miracles que le Seigneur leur donnait d'accomplir, miracles de guérison notamment. Et il y avait des guérisons tellement spectaculaires et miraculeuses que le crédit des druides était totalement déconsidéré auprès des populations. D'ailleurs, certains druides eux-mêmes, devant la puissance miraculeuse qui était ainsi déployée, se convertissaient eux-mêmes, comme le faisait un petit peu Simon le magicien, vous savez, dans l'évangile, quand Philippe était allé évangéliser la Samarie. Et puis, en tout cas, les populations elles-mêmes, eh bien, se détournaient de leurs idoles pour se tourner véritablement vers Jésus-Christ. Un petit peu après cette période, il va y avoir un autre personnage aussi qui va rejoindre, qui va sortir, si on veut, de ce réveil de l'église celte, c'est Colomban. Colomban est aussi un Irlandais, alors ne pas confondre, il y a Colomba et Colomban. Colomban est un petit peu plus jeune, n'est-ce pas ? Il naît en 553 pour mourir en 604. Donc il est un petit peu plus jeune que ses deux prédécesseurs. Qui représente la troisième génération, si j'ose dire, du réveil de l'église celte. Donc c'est un Irlandais, il est né en Irlande du Sud, et il va venir, donc très jeune, après s'être converti, se former au monastère où Colomba donc, enseigne. Et en 573, il va être envoyé en mission avec un autre groupe de jeunes qui ont terminé le cycle d'études dans le monastère de Colomban. Seulement, lui, Colomban a une vision beaucoup plus large encore. Jusqu'alors, les missionnaires sont allés donc dans essentiellement l'Écosse, et puis un peu l'Angleterre proprement dite, c'est-à-dire au sud de l'Écosse. Mais Colomban, lui, a une vision beaucoup plus large, et il vise l'Allemagne. Et c'est ainsi qu'en 573, le voilà parti pour le continent. Il traverse la Manche. Et son premier arrêt sera la Bourgogne. Il s'installe pendant plusieurs années à Luxeuil, où il va fonder un monastère. Un monastère toujours dans la vision des moines irlandais. Et là, il va donner une règle. Une règle qui, d'ailleurs, est inspiré de la règle de Benoît parce que Colomban a quand même des relations avec les bénédictins. Il va beaucoup s'inspirer de la règle de Benoît dans la règle du monastère de Luxeuil, mais il va être encore beaucoup plus exigeant que Benoît, et la règle de Colomban sera encore beaucoup plus stricte que la règle de Benoît. Et c'est alors que, hélas, les problèmes naissent. Les problèmes naissent parce que, aussi longtemps que les Celtes étaient restés dans leurs îles, c'était loin, géographiquement. Et le pape ne s'inquiétait pas trop de ce qui s'y passait. Au contraire, il entendait parler de gens qui venaient chrétiens, bon, c'était pas pour lui déplaire. Seulement, soudain, voilà que ces gens-là viennent, si j'ose dire, dans ce que le pape considère un peu comme sa chasse gardée. Et soudain, le pape se rend compte que, eh bien, les Irlandais, les Celtes, ne sont pas exactement dans l'orthodoxie catholique. Et Colomban est sommé de se soumettre à ce qui est la règle du pape en quelque sorte, et il refuse. Alors le conflit va naître de là. Il est dénoncé par des envoyés du pape au roi, accusé d'immoralité, de conduite immorale, ce qui n'était pas totalement faux, et il est donc chassé par le roi du monastère qu'il a fondé. Or, il en faut autre chose pour Colomban. En 610, il quitte donc Luxeuil et il arrive en Suisse. Il s'installe à Saint-Gall et il fonde un nouveau monastère, toujours dans la même ligne. Lui-même ne va pas y rester longtemps, mais il y installe comme prieur un de ses disciples, Gall, d'où le nom de Saint-Gall, justement. Et lui-même poursuit sa route pour l'Italie. Voyez-vous, il n'hésite pas à venir provoquer le pape, on peut dire, presque sur ses états. Ça, c'était des gens qui n'avaient pas froid aux yeux. Et alors, évidemment, là, il est obligé de s'expliquer avec les envoyés du pape. Alors, il déclare ceci, que lui-même ne s'oppose pas à Rome. Il n'est pas venu pour faire concurrence à Rome. Il propose même qu'il y ait un accord entre l'Église celte et l'Église romaine, mais il refuse de se placer sous la coupe de l'Église de Rome. Il estime que l'Église celte a son identité, sa vision, et que elle a à garder une certaine autonomie par rapport au siège pontifical. Et c'est là précisément que ce point-là va être difficile à avaler pour l'Église de Rome. Mais il n'empêche que rien n'arrête Colomban, ni les menaces, ni les intimidations, et il continue son travail là-bas, donc dans le nord de l'Italie. C'est un homme d'une grande érudition, par ailleurs, il a une connaissance des langues anciennes, et un homme qui a un grand respect pour l'autorité de la Bible. C'est un homme qui prêche vraiment la Bible, et qui va donc, pendant toute sa vie, n'avoir d'autre souci que de prêcher véritablement Jésus-Christ. Il mourra quelques années plus tard en Italie, en étant encore, on peut dire, sur la brèche. Alors, face à cette situation-là, l'Église romaine va réagir. Et l'Église romaine va réagir en essayant de neutraliser cette Église-là qui risque de lui échapper et qui agit un petit peu en franc-tireur. Or, selon le vieil adage, que le meilleur moyen de se défendre, c'est d'attaquer, le pape va entreprendre à son tour une évangélisation des îles britanniques. Nous avons déjà vu comment cette idée lui était venue quand un jour il était allé faire son marché d'esclaves, et qu'il avait trouvé parmi les esclaves qui étaient exposés à la vente un arrivage de Bretons tout frais. Soudain, il s'est dit, tiens, ces gens, les Bretons, ce n'étaient pas les Bretons d'ici, bien sûr, c'était les Bretons, les grands Bretons. Et donc, il s'est dit, tiens, ces gens-là sont païens. Il y avait l'urette que le christianisme avait été éliminé de l'Angleterre, alors cette fois-ci du sud des îles britanniques, non pas l'Écosse, et les missionnaires celtes avaient plus ou moins négligé le sud de l'Angleterre, qui était resté païenne. Donc le pape voit là un moyen d'intervenir. Et c'est ainsi que il rentrait chez lui, il convoque immédiatement un moine qui se nomme Augustin et lui ordonne de partir sur l'heure évangéliser la Grande-Bretagne. Augustin rassemble un certain nombre de moines, plutôt le pape les rassemble pour lui. Ce sont des gens qui ont été désignés comme volontaires. Et voilà qu'ils partent. Ils ne vont pas très loin. Après quelques jours de marche, ils sont détroussés par des bandits parce que les voyages dans ce temps-là n'étaient pas de tout repos. Et comme ils n'étaient pas tellement motivés, eh bien, devant cet avatar qui leur arrive, ils font demi-tour et deux, trois jours après, ils se retrouvent devant le pape. Seulement, Grégoire n'est pas un homme à se laisser ainsi impressionner. Et le soir même, l'équipe d'Augustin est à nouveau en route avec mission d'arriver en Angleterre coûte que coûte, même si jamais ils doivent perdre la vie dans l'aventure, parce que s'ils font demi-tour, eh bien c'est Grégoire lui-même qui se chargera de les faire passer de vie à trépas. Dans des arguments aussi percutants, eh bien, le zèle missionnaire d'Augustin et de son équipe est un petit peu ragaillardi. Et c'est ainsi qu'après un voyage difficile, ils arrivent en Angleterre. Ils s'établissent à Canterbury, à côté de la capitale. Et là, eh bien, ils vont trouver une vieille église qui est en ruine. Une vieille église qui avait été utilisée dans le christianisme existait encore en Grande-Bretagne et qui était dédiée à Saint-Martin. Alors, ils vont restaurer cette église, la reconstruire, et puis ils vont commencer à évangéliser. Et puis, la chance leur sourit, la reine se convertit. Et elle va faire d'Augustin son chapelain attitré. Et bien sûr, comme on l'a vu, quand quelqu'un de la famille royale était atteint, c'était quelque chose de tout à fait intéressant. Pendant plusieurs années, Augustin sera donc le chapelain attitré de la reine d'Angleterre, et il profitera de cette position pour prêcher à la cour, à ses grands, etc. Et au bout de quelques années, le roi lui-même va se convertir. C'est ainsi que l'Angleterre redevient chrétienne. Immédiatement, Augustin va structurer cette église sur le modèle romain, c'est-à-dire avec la hiérarchie épiscopale. Lui-même est nommé par le pape archevêque de Canterbury, c'est le premier archevêque de Canterbury de l'église d'Angleterre. Et voici que soudain vont se trouver dans les îles britanniques deux églises assez différentes. L'église d'Angleterre, qui elle est l'église construite sur le modèle épiscopal romain classique, et puis l'église celte, qui est une église beaucoup plus, beaucoup plus évangélique, de type beaucoup plus évangélique que ne l'est celle-là. Alors, ces églises vont-elles pouvoir subsister? Bien entendu, à partir de Canterbury, Augustin va remonter vers le nord. De leur côté, les Celtes ont pratiquement terminé d'évangéliser l'Écosse et eux descendent vers le sud, en direction des populations anglaises qui ne sont pas encore évangélisées. Bien entendu, quelque part à mi-chemin, ils se rencontrent. Et là, les problèmes naissent. Si bien que les problèmes sont tels qu'en 664, il n'y a pas d'autre solution que de convoquer entre les deux églises un synode pour essayer d'aplanir les problèmes et d'harmoniser un peu les violons. Et la question centrale qui est débattue dans le synode, c'est de savoir qui doit diriger l'église. Quel est le type d'église qui doit prédominer? Est-ce que la structure de l'église doit être une structure pyramidale de type romain, ou bien est-ce que ça doit être une structure de type évangélique telle que celle qui existe dans l'église celte? Et c'est là que Patrick fait une erreur formidable. Là, finalement, c'est là qu'il faut tirer les leçons de l'histoire, parce que je crois qu'on peut se retrouver dans quelques années dans cette situation-là, nous, et peut-être beaucoup plus vite que nous ne le croyons. Les Celtes disent, écoutez, voilà, nous n'avons absolument pas l'intention d'entrer en concurrence avec l'Église de Rome. Nous sommes prêts à respecter l'Église de Rome comme une Église sœur, et aucun problème. Nous sommes prêts à collaborer à fond avec elle. Nous sommes prêts à lui reconnaître une primauté d'honneur, mais nous entendons garder notre autonomie. Nous entendons garder notre structure et notre vision. À cela, les envoyés du pape répondent non possumus, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas admettre. Il faut que vous acceptiez la discipline de Rome. Alors, le conflit est irréductible. Et Patrick déclare ceci, bien, il faut un arbitre dans cette affaire. Il faut un arbitre neutre. Et je vous propose que cet arbitre soit le roi d'Angleterre. C'est pas très neutre déjà par avance. Et Patrick fait cette erreur de se dire, quelle que soit la décision de l'arbitre, je prends l'engagement d'avance de me soumettre à la décision que ce dernier donnera. Autant dire que la cause était faite d'avance. Que s'est-il passé dans les coulisses? Quelles pressions ont été faites par les envoyés de Rome sur le roi d'Angleterre? Toujours est-il que son verdict est tombé. C'était Rome. Donc, c'était la fin des églises celtiques. Petit à petit, les envoyés de Rome ont pris les leviers de commande dans les églises celtiques. Et en même temps, eh bien, le réveil s'est arrêté. Ça a été la fin de ce magnifique réveil qui était allé jusqu'en Suisse, en Allemagne, dans le nord de l'Italie, etc. Enfin, c'était un échec. C'était un échec que cette acceptation par les Celtes de la mainmise romaine. Mais ce qui avait été fait. En 633, il ne restait plus dans les îles britanniques que la région du Kent qui n'était pas évangélisée. Alors je crois que c'est très important de tirer les leçons de cette histoire de l'église celte, d'un réveil qui a été récupéré, d'un réveil qui a été canalisé et stoppé par Rome, parce qu'il remettait en question ses structures. Dans le fond, c'est exactement ce que l'église catholique a fait avec le réveil charismatique de notre temps. Et c'est ce qu'il s'apprête à faire demain avec les conseils chrétiens, ça c'est très clair. Et il n'est pas du tout utopique d'imaginer que d'ici quelques années, eh bien, il y ait quelque chose comme ce fameux synode-là, où on dise, eh bien, écoutez, voilà, l'Église romaine, comme le pape vient de dire, par exemple, à l'Église orthodoxe, peut accepter des différences qui sont, comment est-ce qu'on disait, légitimes, disait, vous vous souvenez, le Persica, des différences légitimes. Bon, et vous êtes évangélique, vous n'avez qu'à garder vos structures, les pasteurs mariés, etc., pas de problème. Et ça pour un temps, comme l'avait fait par exemple le pape avec Colomban. Et puis au bout d'un temps, quand les choses seront bien avancées, dire maintenant il faut vous aligner. Les différences que nous considérions comme légitimes, maintenant nous les considérons comme séparatrices. Et c'est toujours Rome qui tranche. Et là, l'erreur qu'a commise Patrick, c'était de dire, eh bien, bon, puisque vous jugez ces différences séparatrices, eh bien, nous alignons. Et ça a été la fin du réveil. Ça a été la fin de l'œuvre de Dieu. Alors, ce magnifique mouvement de réveil, eh bien, comme beaucoup de mouvements, il a duré l'espace de 3 générations. Ensuite, il a été bloqué et stoppé. Les monastères ont été petit à petit intégrés sur le modèle général, c'est-à-dire sur le modèle bénédictin. Ils ont perdu leur caractère de rayonnement pour devenir des monastères tout simplement comme les autres. Et petit à petit, toutes les théologies romaines sont entrées dans ces églises-là. Bien sûr, toute cette équipe, Patrick, Colomban, tout ça, ça a été canonisé en masse, on leur devait bien ça. Ils sont devenus des saints, qui n'auraient pas été autrement, bien sûr. Mais ça n'enlève rien au fait que le réveil et ce que Dieu voulait faire a été passablement et durablement compromis. Mais je crois que c'est intéressant parce que pour nous aussi, il y a là des parentés tout à fait étonnantes, oui, sur le plan d'origine, d'une part. Puis, deuxièmement, sur le plan de la vision, sur le plan de monastères conçus non pas comme des monastères au sens traditionnel du terme, mais comme communauté de rayonnement, communauté d'entraide, d'accueil, d'évangélisation, de mission, etc. Eh bien, je crois que là, au-delà des siècles, dans un contexte qui n'est pas sans ressembler par de nombreux points au VIe siècle, même si, bien sûr, l'histoire ne se répète pas, eh bien, il y a quand même là des choses tout à fait intéressantes qui sont aussi pour nous à la fois motif d'encouragement et en même temps aussi qui nous amènent à être extrêmement attentifs et notamment dans le contexte que nous venons d'indiquer il y a un instant. Alors, en gros, voilà, si vous voulez, évoquer l'histoire de cette période de l'Église au VIe siècle. Maintenant, nous allons revenir un petit peu sur les caractéristiques générales de cette Église au VIe siècle. Et tout d'abord, ce que j'appellerais la mythologie chrétienne. Parce que Grégoire est certes un homme d'envergure, c'est un homme de foi aussi, je crois qu'il faut le lui concéder, mais c'est un homme aussi profondément superstitieux. Et avec lui, un certain nombre d'hérésies vont soit être développées, parce qu'elles existent déjà dans l'Église catholique, mais vont se renforcer, et puis d'autres hérésies vont avoir lieu. Et la grande mythologie catholique du Moyen-Âge va naître avec Grégoire le Grand. Il existe, à cause de l'influence de Grégoire, une transformation de l'esprit et de la doctrine chrétienne qui fait que là, on entre vraiment maintenant dans l'Église du Moyen-Âge. Et cela est dû à ce qui se produit toujours dans l'Église catholique, c'est-à-dire la synthèse entre le christianisme et l'esprit du temps. Vous remarquez, à toutes les époques, le catholicisme fait cette démarche. Au moment où l'Église est apparue dans le milieu grec, il y a eu synthèse entre le christianisme et la philosophie grecque. Ça a été l'œuvre des pères de l'Église que nous avons étudiés. Et maintenant, nous sommes dans un nouveau contexte, celui où l'Église se trouve en milieu païen. Donc ce néopaganisme des barbares qui naît avec les invasions. Et de ce fait, Grégoire va faire une synthèse entre le christianisme et le paganisme. Et ça, de cette synthèse-là, va sortir l'Église du Moyen-Âge, l'Église catholique du Moyen-Âge, Église qui perdurera jusqu'à la Réforme, qui ne sera remise en cause que par la Réforme du XVIe siècle. Nous avons vu que la visée ultime de Grégoire, c'était l'évangélisation de l'Europe. C'était une excellente vision, et ça, on ne peut pas lui en faire le reproche, bien au contraire. Mais qui veut la fin veut les moyens. Et comme Grégoire était un homme intelligent, qui savait qu'il avait affaire à des gens qui étaient quand même profondément marqués par l'esprit païen, il s'agissait de les évangéliser, mais si l'on voulait avoir le succès que l'on escomptait, il ne fallait pas non plus les choquer. Et c'est pourquoi il ne s'agissait pas de prendre de front les mythes païens qui étaient les leurs. Mais il s'agissait de faire ce qui était finalement la politique de l'Église catholique jusqu'à nos jours. Il s'agissait d'adopter et de christianiser les mythes païens. D'où, par exemple, les menhirs surmontés d'une proie, on voit un peu partout en Bretagne. C'est exactement la même démarche. Et nous avons, à cette époque-là, une lettre tout à fait intéressante d'un missionnaire, je ne sais plus où, je crois que c'était ici, justement. Peu importe. Et ce dernier écrit à Grégoire le Grand, il dit, écoutez, voilà, ici, nous avons un temple dédié à je ne sais plus trop quelle divinité, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut qu'on le détruise, ou bien qu'est-ce qu'il faut en faire? Et Grégoire répond à peu près en ces termes, il dit, écoutez, voilà, j'ai bien reçu votre lettre, et j'ai longtemps réfléchi, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris une décision à la légère. J'ai longtemps réfléchi à ce que vous m'avez dit, et voilà ce que je pense qui est bien. C'est que plutôt que de détruire ce temple et de choquer ainsi ces gens, ce que vous avez à faire, vous n'avez qu'à organiser une grande procession, une grande cérémonie, un certain jour, le jour de la fête de la divinité en question. Et puis vous introduirez la divinité, le saint le plus proche, au point de vue historique, au point de vue personnalité, de celui du Dieu qui est adoré dans ce temple. Vous arriverez dans le temple en question, vous remplacerez la statue du Dieu par la statue du Saint, vous aspergerez les murs du temple d'eau bénite pour le sanctifier, et vous consacrerez ce nouveau lieu de culte au culte du vrai Dieu. Ainsi, petit à petit, les populations passeront de la foi aux idoles à la foi au véritable Dieu. Sur le plan humain, c'est très sage. Sur le plan humain, il n'y a rien à dire. Sur le plan spirituel, il oublie simplement une chose essentielle, sa conversion. Voyez-vous, il s'agit de passer progressivement du paganisme au christianisme. Or, la Bible nous dit exactement le contraire. Vous vous êtes détournés des idoles, dit Paul aux Thessaloniciens, pour vous tourner vers le Dieu vivant. La conversion, c'est une rupture brutale. Et justement, l'Église catholique a voulu faire l'économie de cette rupture brutale. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait embrasser le plus de monde possible. Et c'est ainsi, par exemple, que dans les pays goths, les dieux traditionnels, les grands dieux du panthéon goth, Voltan et Thor, sont remplacés par les deux archanges, Gabriel et Michael. Voltan devient Gabriel et Thor devient Michael. Il suffit de changer un petit peu les noms, de mettre un petit coup de peinture sur les anciennes statues, le tour est joué. Beaucoup de ces peuples ont des déesses mères ou des déesses qui représentent la terre, etc. Il est très facile de substituer à ces cultes-là le culte de la Vierge. Dans le même ordre d'idées, les reliques connaissent aussi une grande popularité parce que pour les peuples païens, ça ne les change pas beaucoup. On a affaire à des objets magiques qui sont remplis de pouvoir, de puissance mystérieuse, etc. qu'on peut capter sans beaucoup de frais. C'est frais pécuniaires, ça c'est pas grave. Mais je veux dire sans beaucoup d'efforts de sainteté personnelle ou de réforme morale. Vous donnez par exemple quelques exemples du genre de relique qui est en honneur à ce moment-là, ainsi que Grégoire enverra à une certaine impératrice un peu de poussière de limaille provenant des chaînes de Paul qui se trouvaient à Rome. Pas beaucoup, mais enfin, c'est sûr que ça a un pouvoir miraculeux, tout à fait formidable. Et le pouvoir miraculeux de cette relique compense largement le peu d'importance de son volume, quoi. Bon. Il y a aussi alors là des légendes superstitieuses qui naissent à ce moment-là. Par exemple, Grégoire affirme que dans les cimetières, n'est-ce pas, qui sont devenus des lieux saints maintenant, on appelle ça la Terre Sainte, on consacre les cimetières. Et alors, les morts qui sont indignes, qui ont vécu une vie de péché, si on les enterre dans ces cimetières de Terre Sainte, eh bien, ils en sortent la nuit suivante. Des scènes épouvantables, abominables, où les habitants, les voisins du cimetière voient les morts indignes sortir en hurlant, en poussant des grands cris du cimetière, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans cette Terre Sainte. Ah oui, c'est surtout au moment où on dit la messe que ces gens-là sortent. Bien, alors, l'idée aussi que l'hostie prend un caractère sacré lorsqu'elle a été ainsi consacrée par le prêtre. Et c'est aussi l'époque où Grégoire rend obligatoire dans l'ensemble de la chrétienté la messe en latin. Le latin est une langue qui, à cette époque-là, n'est déjà plus comprise par la majorité des gens, bien entendu, qui sont d'origine barbare. Mais le fait d'obliger ainsi les prêtres à lire la messe en latin ajoute au caractère solennel et mystérieux du rite de la messe et impressionne fortement les âmes simples qui croient qu'il y a des choses tout à fait formidables, d'autant plus formidables qui se passent, qu'ils ne les comprennent moins. Dans le même ordre d'idées, le culte des morts est aussi fortement encouragé par Grégoire, et il y a des messes pour le repos des morts, des ligues même qui se créent pour veiller sur le repos des morts en leur faisant dire des messes en temps utile, etc., etc. Maintenant, à côté de ces éléments de superstition, il y a aussi un certain nombre d'éléments positifs qui sont à mettre au crédit de Grégoire. C'est ainsi que Grégoire réaffirme avec force le caractère indissoluble des liens du mariage. c'était très important de le lire à cette époque-là, presque aussi important que de nos jours, pour les mêmes raisons, parce que les mœurs étaient particulièrement dissolues. Alors on voit quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que la doctrine catholique était on ne peut plus clair à ce niveau-là, mariage indissoluble, pas de problème. Mais la situation pratique était telle qu'au bout d'un temps, l'Église a été obligée de composer avec ce qui se vivait dans les faits. Et si la doctrine est restée officiellement la même, la pratique a été très souple. Et on voit se dessiner à peu près la même chose aujourd'hui dans l'Église catholique de notre temps. Bien sûr, il y a l'idéal, et puis, ma foi, on sait bien que les hommes sont des pauvres pécheurs, et l'Église est indulgente vis-à-vis des faiblesses des hommes, etc. Et donc, il y a des accommodements possibles, qui sont ainsi prévus, et ce d'autant que naît à cette époque-là aussi une doctrine, ou plutôt se développe une doctrine qui était en germe, mais qui maintenant va être officialisée, la doctrine du purgatoire. Qu'est-ce que c'est que la doctrine du purgatoire? C'est la prolongation au-delà de la mort des conditions temporelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après la doctrine catholique, si quelqu'un a péché d'une manière publique et scandaleuse, il est coupable, certes, auprès du Seigneur. Bon, il peut recevoir le pardon du Seigneur, car le Seigneur est mort sur la croix, pour expier les péchés de ceux qui se repentent. Mais, quand il aura ainsi obtenu le pardon du Seigneur, il n'a pas pour autant obtenu le pardon de l'Église. Et dans la mesure où son péché a été public, remarquez, ce n'est pas entièrement faux, dans le départ. À mesure où son péché a été public, l'Église se doit de lui imposer des réparations, une réparation, avant de le réintégrer dans l'Église. Marquez, c'est dit d'une manière qui n'est pas biblique, ce que la Bible affirme, savoir que, par exemple, quelqu'un qui a péché gravement, qui est tombé dans l'adultère, qui a volé, qui a tué, etc., bon, qui a, après avoir fait profession d'être chrétien, c'est bien évidemment. Bon, celui-là, il reçoit le pardon de Dieu, et en quelque sorte aussi le pardon de l'Église, bien entendu, mais avant qu'il soit réintégré, il faut qu'il soit mis sous discipline, il faut qu'il soit mis, qu'il y ait un temps d'épreuve. Ça, c'est logique, c'est biblique. Seulement là où l'Église catholique va beaucoup plus loin que ce qui est écrit, et où l'hérésie part toujours d'une base biblique, mais on pousse trop loin. Et là où ça commence à dérailler, c'est quand l'Église dit il faut imposer des épreuves. Bon, c'est vrai qu'on les éprouve. On les éprouve pour voir si vraiment la repentance est sincère ou si c'est une repentance de façade. C'est logique. Mais alors, l'épreuve en question doit constituer à attendre, c'est le temps, c'est l'épreuve du temps essentiellement, qu'ils vivent saintement, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il ait fait vraiment la preuve qu'il est vraiment revenu à Dieu. Il ne tombe pas, si pendant un certain temps, il ne tombe pas dans son péché, bon, ben, c'est qu'on peut penser que la repentance est sincère. Mais l'Église catholique dit, l'épreuve en question, c'est pas simplement l'épreuve du temps, mais ce sont des espèces de prouesses, etc., des pèlerinages, une véritable peine, une peine qui lui est imposée. Et dans la mesure où il a satisfait à cette peine, essentiellement des pèlerinages, donner une partie de ses biens, enfin des choses comme ça, hein, à ce moment-là, l'Église peut lui accorder son pardon. Alors que dans la vision biblique, c'est jamais l'Église qui accorde le pardon. Le Seigneur a pardonné, mais l'Église éprouve pour voir la sincérité de la repentance, c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Et là, donc, à ce moment-là, l'Église accorde au pécheur son pardon. Non ? Admettons que ce brave homme meurt avant d'avoir eu le temps de satisfaire aux peines temporelles, ce qu'on appelle les peines temporelles. Il y a les peines éternelles, c'est-à-dire que si quelqu'un s'est pas repenti d'un péché grave, bien il va souffrir l'enfer pendant l'éternité, comme le dit la Bible. Et il y a les peines temporelles, c'est-à-dire les souffrances qu'il doit endurer ici-bas, qui lui sont imposées par l'Église, pas par Dieu, par l'Église, mais que l'Église a le droit de lui imposer. et qu'il doit satisfaire pour pouvoir obtenir le pardon de l'Église, donc automatiquement aussi le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est à deux niveaux. Il y a le pardon que Dieu donne, il y a le pardon qu'il donne par procuration par l'Église. Et c'est encore la doctrine catholique jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et alors, à ce moment-là, s'il meurt avant d'avoir satisfait aux peines temporaires, mettons par exemple qu'il était, on lui a imposé un pèlerinage à Rome, puis il sort de son village, de sa ville, il tombe sur des brigands qui l'oxissent. Il n'a pas eu le temps de faire son pèlerinage à Rome. Il va être damné. Non, dit l'Église catholique. Non, c'est prévu. Il va satisfaire les peines temporelles dans l'au-delà. Comment ça? Eh bien, en souffrant dans l'au-delà. C'est-à-dire un enfer, son fur l'enfer. La seule différence entre le purgatoire et l'enfer, c'est que l'un est éternel, et que dans l'autre, on a une chance d'en sortir un jour. C'est tout. Et c'est ainsi que naît le purgatoire. Et ce qui est formidable, c'est que le purgatoire, il est sous le contrôle de l'Église automatiquement. C'est l'Église qui décide, en quelque sorte, quand quelqu'un a satisfait aux peines du purgatoire et peut ainsi sortir du purgatoire. Et ça, c'est Grégoire le Grand qui élabore cette doctrine. Alors, il part de cette idée que Dieu ne laisse aucune faute impunie. Voyez-vous, la grâce et l'amour de Dieu commencent là-dedans. Dieu ne laisse aucune faute impunie. Il y a un compte là qui est marqué, hein. Il n'y a pas de problème. Seulement, voilà, ce qui est formidable, c'est que l'Église, elle, a trouvé un moyen pour réparer chacune des fautes. Alors, autrement dit, voyez-vous, on arrive à ça, c'est que l'Église est médiatrice, et c'est plus Jésus. C'est l'Église qui est médiatrice. Par Jésus interposé. Mais en fin de compte, c'est elle qui est la gérante de cet ensemble-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème en Église catholique. Et comme l'a dit le pasteur Fréchet quand il est venu, voilà la différence séparatrice. C'est le rôle que l'Église joue dans l'économie du salut. Est-ce que l'Église dispose ainsi, en quelque sorte, de la grâce de Dieu, donc en faire ce qu'elle veut indépendamment de Dieu? C'est caricatural. Et si on disait ça à un catholique, il grimperait au mur, il se mettrait à hurler. Pas. Mais dans les faits, c'est à cela que ça revenait à cette époque-là, et que ça, finalement, c'est moins criard, c'est moins caricatural aujourd'hui, dans l'Église moderne, mais finalement, ça reste encore ça, le point. C'est le point essentiel. Et toutes les erreurs romaines, finalement, découlent de cela. Essentiellement. Donc, ici, on est loin de la foi et de l'amour dont parle Paul. Et la foi, qui est l'essentiel, selon Paul, pour plaire à Dieu, est remplacée ici par la crainte. Le chrétien du Moyen-Âge va vivre dans la crainte de Dieu, d'un Dieu terrible, d'un Dieu de jugement. Et si vous reprenez Luther, à la fin de cette période-là, c'est exactement le sentiment qui anime Luther. Luther est un homme qui est terrorisé par Dieu, terrorisé par la pensée d'avoir rencontré Dieu et à lui rendre compte de ses fautes. Et le soulagement va venir le jour où, soudain, dans l'Épître aux Romains, il découvrira que ce n'est pas l'Église, ce n'est pas ses mérites qui est médiateur, mais c'est gratuitement le sang de Jésus qui le purifie de tout péché. Ça, ce sera la libération de ce joug terrible, ce joug romain, que pendant des siècles et des siècles, depuis Grégoire le Grand jusqu'à Luther, l'Église catholique va faire peser sur les âmes. Ce joug de crainte, ce joug d'obscurantisme et de ténèbres. Alors, la grâce continue à être enseignée comme étant un article de foi dans l'Église. Mais la grâce devient quoi à ce moment-là? Un système mécanique de mérite. Vous comprenez? Tu dois ça à Dieu, donc tu lui payes ça. Et on est quitte. Donnant, donnant. Et souvent donnant au sens propre du terme, d'ailleurs. Donnant en monnaie sonnante et trébuchante. Hein. La messe, par exemple. Prenons l'exemple de la messe. Qu'est-ce que c'est? C'est un sacrifice renouvelé, mais au profit de l'homme. Ça entre dans ce jeu compliqué de mérite, de réparation, de compensation, n'est-ce pas? Assister à une messe, c'est ainsi expier, non pas tous ses péchés, bien sûr, on ne peut jamais expier tous ses péchés, c'est ça qui est formidable, il reste toujours suffisamment pour que l'Église continue à avoir une emprise sur vous. Une partie,
partie plus ou moins grande, quelle partie. C'est pas très clair, on sait pas. Alors il faut toujours en faire plus. Et c'était ça le dilemme de Luther. On n'en a jamais fait assez. On n'en a jamais fait assez d'abord pour être sûr d'avoir le pardon de Dieu. Et qu'on n'en a jamais fait assez aussi pour pas aller en purgatoire. C'est l'Église qui décide. Et l'Église, eh bien, quand vraiment, vraiment quelqu'un alors a été vécu une vie exemplaire, il est déclaré bienheureux, ça veut dire exclu du purgatoire, quoi, de sortir du purgatoire. Et puis, vraiment, c'est alors là, encore plus extraordinaire, il est déclaré saint. C'est-à-dire, ayant la possibilité, c'est-à-dire que là, on est dans une autre problématique, le saint, il a plus de mérite qu'il n'en a besoin pour son compte personnel. Il en a fait trop. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. L'excès, le surplus, est versé dans un trésor. Le trésor des mérites des saints. Et l'Église peut puiser librement dans le trésor des mérites des saints pour les répercuter aux pécheurs. C'est formidable, c'est un système de compensation, solidarité. C'est pourquoi les saints sont des gens si importants. Parce que grâce à leurs mérites, les pauvres pécheurs que nous sommes peuvent recevoir des compensations qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Et comment se fait cette transaction? Eh bien, justement, par l'indulgence. L'indulgence, c'est l'Église qui puise dans le trésor des mérites des saints et, dans certaines conditions particulières, permet à un certain nombre de gens d'en bénéficier. Je lisais dernièrement, d'ailleurs, dans le diocèse de Saint-Brieuc, là, ou de Finistère, plutôt, Quimper, je crois, plutôt. Ouais, c'est ça. Il y avait un tract qui circulait, que j'ai eu entre les mains pendant qu'on était à Carré, je ne sais pas si vous l'avez vu, que j'ai entendu quand on était là-bas, qui disait à peu près cela, que donc le pape avait déclaré qu'il y aurait une indulgence plénière, donc tel jour, pour ceux qui iraient dans un sanctuaire marial et qui prieraient dans un sanctuaire marial entre le temps et le temps. Alors on pourrait recevoir d'indulgence que pour une journée, par pèlerinage. Donc si on voulait plusieurs, il fallait aller dans plusieurs lieux et en faire plusieurs pèlerinages pendant cette période-là, et pour une seule personne, ça ne pouvait pas se... On pouvait par contre, si quelqu'un était vraiment empêché de le faire, on pouvait le faire à son intention, et c'est lui qui récupérait l'indulgence. C'est bien, par personne interposée. Si vous avez un malade, si vous avez quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, vous pouvez aller à sa place. Et c'est lui qui va bénéficier. Hein. Alors c'est ainsi par exemple que l'hostie qui est consommée après la messe, après qu'elle est offerte au sacrifice, diminue le temps d'épreuve au purgatoire. De combien? Ça, c'est toujours très vague, c'est jamais trop. Mais enfin, il faut toujours essayer, quoi. C'est toujours ça de prix. Alors voilà comment on en est donc à cette période-là. Et certain que l'Église catholique sombre à partir de Grégoire le Grand, vraiment dans les ténèbres du Moyen-Âge. C'est pourquoi on comprend l'obstination des moines irlandais en face de cette évolution-là, d'entrer dans le système romain. Et en même temps, l'énorme blague qu'ils ont faite, quand finalement, se rendant aux pressions, eh bien, après avoir reçu des garanties d'ailleurs, parce qu'on ne leur a pas dit que vous acceptez le purgatoire comme ça le jour lendemain, vous pouvez garder votre indépendance, regarder, etc. Puis en fait, ils se sont laissés noyauter, ils se sont laissés encadrer, puis en l'espace de une ou deux générations, ils ont été récupérés. Et là, il y a une grande leçon à retenir de ça. Grande leçon. Parce qu'on voit que l'Église catholique aujourd'hui est en train de suivre la même évolution. On va d'avoir donné une chance pendant un temps, laissant entendre que maintenant, ces choses-là, on les avait larguées par-dessus bord. Et en fait, on se rend compte que c'est en train de venir à toute vitesse. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser?